Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage des récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 de La tête en mer avec Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée et détenteur d'un record à moins 113 mètres de profondeur. C'est depuis l'île de Tenerife que Stéphane nous raconte son parcours et les leçons de vie que l'apnée lui a apprises. J'ai particulièrement apprécié cet échange avec Stéphane pour tous les enseignements qu'il m'a apportés et pour son honnêteté. Être athlète de haut niveau semble abordable à tous quand on l'écoute, si tant est qu'on accepte nos faiblesses pour travailler dessus et que l'on vienne déconstruire nos peurs et nos croyances limitantes. Stéphane nous rappelle l'importance de réaliser des challenges qu'il nous faut prendre confiance en nous. J'espère que cet épisode vous poussera à trouver votre challenge, qui sait, peut-être avec l'apnée, et à suivre votre intuition pour aller vers ce qui vous anime vraiment. Bonne écoute, et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous. Bonjour Stéphane.
Salut.
Comment ça va à Tenerife?
Bah plutôt bien, même très très bien. Je vis ma meilleure vie, je crois.
C'est vrai? Ça fait combien de temps que tu es installé là-bas du coup?
Bah là, j'ai pris la décision de partir fin octobre et donc du coup, ouais, ça fait depuis fin octobre. Que voilà, et que du bonheur parce que j'ai jamais vraiment vécu au bord de la mer et le fait de pouvoir le faire, bah, ça a changé pas mal de choses dans mon entraînement, donc c'est cool. J'ai la stabilité, la structure qui me va bien pour m'entraîner avec ma chérie aussi, donc non, cool. C'est vraiment des super conditions, l'environnement il est fou. Il y a 5 pays en un à Tenerife. Parce qu'il y a vraiment des panoramas complètement différents, très variés, et puis bon, on a tout ce qu'il faut pour plonger et pour s'entraîner, quoi. Donc, parfait.
Ça doit être un sacré changement pour quelqu'un qui vient des Alpes.
ouais, carrément. Après, je t'avoue que bah, j'étais quand même souvent en déplacement à l'étranger. Donc, ça a juste simplifié ma vie. d'être un peu moins dans les voyages et dans les allers-retours et de pouvoir se poser à côté du spot qui me va bien. Et au final, je ne regrette pas du tout parce que... Je t'avoue qu'il y a une forme d'environnement et de positif qui est un peu plus fort aussi qu'en France. on va pas parler politique, mais on va dire qu'il y a des énergies plus de meilleures bonnes vibes en fait ici. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui est important, je pense, pour la performance, pour moi, et donc il fallait que je passe cette étape là pour aller un peu plus loin. Ouais.
Génial. Et quand tu dis ça par rapport spécifiquement à l'apnée, par rapport à l'ambiance ou même dans la vie quotidienne.
Ouais, l'ambiance de manière générale, ouais. Ouais. C'est vrai que depuis quelques années, je vois la dégradation en termes d'environnement, même si on avait un groupe de potes et autres, c'est très oppressant. Cette politique-là m'a oppressé, mais d'une manière indirecte. On ne s'en rend pas compte en fait quand on y est. C'est quand on bouge ailleurs qu'on s'en rend compte. Et donc du coup voilà, des nouvelles rencontres aussi ici sur place,
ça fait du bien, bonheur,
je m'éclate en tout cas dans ce que je fais et sur ce lieu, ouais.
Non, mais génial. Et vous êtes une grosse communauté d'apnistes à Tenerife?
Ouais, quand même, ouais, parce qu'il y a deux écoles fixes d'apnée qui sont rien que sur Adazul. Après, dans le sud, il y a aussi d'autres activités apparemment sur l'apnée, mais c'est vraiment le spot, c'est Adazul. Et donc, il y a toute une communauté, aussi des indépendants, des instructeurs indépendants, pas mal de passages. Donc, ouais, une grosse communauté apnée qui est vraiment cool. Et puis, un spot de fou, c'est qu'en fait, il y a pratiquement jamais de courant. Il y a la profondeur vraiment à la sortie du port. On a la structure pour pouvoir plonger profond. Enfin, c'est idyllique, quoi. Et surtout aussi les infrastructures sportives, d'avoir des piscines, d'avoir des salles de musculation disponibles, un environnement naturel qui est fou. Il y a aussi l'altitude. Parce que je quitte pas non plus complètement la montagne. Je l'ai retrouvée aussi au TID, donc c'est génial. Je m'éclate.
Ouais, c'est ça. C'est la montagne la plus haute d'Espagne en plus, hein, sur une.
Ouais. C'est vraiment un piton au milieu de l'océan, quoi. Donc ouais.
Est-ce que pour parler justement des montagnes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens et ton parcours?
Ouais. Alors moi je viens de Haute-Savoie, donc je suis né à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, et entre lac et montagne. Et j'ai découvert l'apnée en Corse, en mer. Donc c'est là que j'ai pu mettre les palmes et découvrir un petit peu le milieu sous-marin et me rendre compte du bienfait que pouvait apporter l'apnée en fait quand on était dans l'eau, quoi. Et moi j'avais besoin de ça parce que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de difficultés à me concentrer à l'école. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma période scolaire, et donc ça a été une vraie révélation, ouais. Même si je pouvais pas pratiquer bien sûr dans ma région parce qu'il y avait rien. Donc j'ai, on va dire, une évolution en tant qu'apnéiste de manière autodidacte, ouais, en grande partie. Après,
Même en piscine, il n'y avait pas de club piscine.
non, bah après c'était Genève, mais j'avais pas forcément l'âge ou la possibilité de me déplacer systématiquement à Genève. Mes parents étaient à plus d'une heure et demie de route, c'est compliqué. Donc j'ai dû, plus tard, j'ai eu des moments de coupure, je suis remis à j'ai commencé à découvrir l'apnée en lac à l'âge de 17 ans, quelques années, puis après c'est revenu plus tard à l'âge de 18 19 ans, où là on m'a dit ce serait bien que tu puisses développer l'activité dans la région parce qu'il y a rien et tout est en train de se développer. Moi je savais que l'apnée était en train d'exploser un peu partout en France dans les clubs, et bah il fallait bien qu'il y ait un pélo qui s'y mette. Qui prennent ses palmes, et qui commencent à prendre ses notes et à donner des cours, à donner. Donc, je me suis formé en parallèle, mais j'ai formé aussi. Je me suis formé à l'instructorat en parallèle pour pouvoir développer l'activité dans ma région. Après, de former aussi des plongeurs qui pouvaient développer l'apnée sur Annecy, en leur disant qu'il fallait créer un club d'apnée et pas forcément se greffer un club de plongée, parce que des fois, ça peut être compliqué. C'est ce qu'ils ont fait, et du coup, ça a vraiment bien bien pris sur Annecy, parce qu'il y a un énorme tout ce qui est sport nouveau et autres, ça démarre très très vite dans cette région. Et donc je me suis vraiment senti comme à la maison, et je me suis installé à Annecy en 2011. Et après ça a été la grande épopée de vivre de l'apnée, et voilà, ça c'est encore une autre aventure.
Génial. Donc en fait, tu as très vite décidé de consacrer ta vie à l'apnée, on va dire au sport, même de manière globale, de ce que je comprends. À 18 ans, tu étais déjà dans cette démarche-là. Est-ce
Alors
que...
oui et non, parce que j'avais pas forcément suffisamment de confiance en moi pour me dire que j'allais vivre de l'apnée.
Ouais, ok.
On était à des années-lumière de pouvoir en vivre, mais
Ouais.
c'est sûr que ça aurait été un rêve à cette époque-là, c'est ce que je me disais. Après j'ai franchi les étapes les unes après les autres, et je me suis rendu compte progressivement que c'était possible, mais j'avais beaucoup de peurs et de croyances et limitantes. Et donc il a fallu énormément travailler sur le développement personnel pour pas pour contrer ça, mais pour accompagner ma confiance et franchir les étapes les unes après les autres, quoi.
Et donc, du coup, tu as mis ça un petit peu de côté et tu as poursuivi des études dans un tout autre domaine ou tu as quand même, tu t'es vite professionnalisé là-dedans?
Alors moi, les études, ça a été une vraie catastrophe, clairement depuis le début. Je suis sorti du collège, on m'a dit que j'étais pas bon pour des études scientifiques, donc du coup, j'étais pas assez intelligent pour ça. Donc, du coup, je me suis orienté vers un BEP qui avait rien à voir. Je me suis fait chier pendant 2 ans. Donc j'ai passé sa vie de ce truc-là, et je me suis dépêché de partir. J'ai essayé de trouver ma voie à travers différentes choses. Je me suis intéressé à la gendarmerie, parce que j'arrivais pas en fait à trouver vraiment quelque chose qui corresponde. Et c'est en me remettant, mettant la tête dans l'eau, et mon frère qui me disait, bah passe ton brevet d'état, ton monitorat, comme ça tu peux peut-être développer quelque chose. Moi je me voyais pas enseigner. Au final ça m'a plu, et c'est comme ça que ça a démarré, et de me dire, mais en fait je suis trop bien là-dedans, et c'est ça que je veux faire. Donc ouais, c'est vraiment vraiment la sortie du lycée où je me suis dit, bon, maintenant il faut y aller.
Ok, donc c'est assez jeune. C'était du coup la question que je voulais te poser. Est-ce que dans une société où tu vois on nous incite quand même beaucoup à faire de longues études, à faire des grandes écoles, choses comme ça, que c'est des choix difficiles à prendre du coup? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que tu avais aucun doute sur le fait qu'il fallait te lancer là-dedans?
Carrément que j'avais des doutes, j'en avais énormément, et à tel point que c'est vraiment ouais, c'est une forme de peur et en même temps de culpabilisation, en me disant, mais j'ai pas d'études, je pourrais pas être légitime, il y a toutes ces choses-là qui me tombent dessus, alors qu'en fait j'ai appris quelques années plus tard que c'était tout l'inverse. C'est des fois en ne faisant pas d'études qu'on n'a pas tous les paramétrages et la programmation qu'on a dans le système scolaire et qui nous permet d'évoluer avec notre propre expérience, notre propre capacité à aller chercher l'information, à se cultiver, à s'informer, à se former. Donc, tout ça fait que ça m'a validé le fait que bah, si j'ai pas fait d'études, en fait, au contraire, c'était pour moi le plus grand cadeau. Ça m'a permis de grandir plus vite dans des domaines où je me croyais pas légitime. Et c'est après, en commençant à donner des conférences en entreprise, justement sur l'éveil de conscience, sur le développement de soi, sur la gestion des émotions, que je me suis rendu compte qu'en fait, même dans le milieu managérial, on était à des années-lumière de ce qu'on faisait, nous, les apnéistes. Et c'était vraiment passionnant. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, tant mieux, c'est que tout devait se faire comme ça, quoi. Maintenant, je me dis ça, mais c'est vrai que pendant quelques années, j'ai culpabilisé de me dire, mais est-ce que tu referais pas des études? Est-ce que c'est pas bien d'avoir des études en plus? Mais, en fait, pas du tout. Et je regrette rien.
Ouais, moi je pense qu'on est conditionné, tu vois, en t'entendant, je me dis, est-ce qu'en fait les études nous limitent pas finalement pour faire des choses, tu vois, ça nous met, je trouve, moi personnellement en tout cas, ça m'a mis dans un cadre et c'est pas facile d'en sortir. Alors que là, voilà, t'es parti un peu de zéro, t'as foncé vers un truc où t'as senti qu'il y avait quelque chose. Je comprends que tes proches, ton frère en l'occurrence, t'as soutenu aussi, donc ça c'est chouette.
Ouais. Bah, au début, ils avaient peur, mes parents, hein. C'était pas gagné, mais bon, voilà, ils voulaient mon bonheur, donc moi, si j'étais heureux là-dedans, il fallait que je continue. Après, je pense que les études peuvent apporter des choses, des connaissances qui sont intéressantes. Mais après, c'est d'arriver à déconstruire et désapprendre. Je pense que c'est ça le plus dur dans notre vie. Au final, on passe beaucoup de temps à apprendre. Mais à un moment donné, il faut désapprendre et revenir aux choses simples, qui sont plus le ressenti, l'intuition et notre capacité de discernement et de jugement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. C'est pas appris à l'école. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'on apprend par son propre expérience. Donc, si on est très paramétré par les études et qu'on n'en sort pas, ouais, malheureusement, je pense qu'on peut passer des fois à côté de certaines choses qui sont assez passionnantes.
Je pense. Et je pense que tu as bien fait de te lancer dans l'apnée du coup, parce que tu as déjà réalisé de très belles choses. Je lisais sur ton site internet, qui est très bien fait au passage,
Merci.
tu disais que l'apnée est sans doute la discipline sportive la plus complète sur le plan mental, physique, technique, environnemental et spirituel. Il y a pas mal de choses qui m'interpellent dans cette phrase, et je te propose qu'on s'attarde un petit peu plus sur chaque mot que tu as utilisé. Tu parles en premier lieu du plan mental. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu fais de l'apnée?
Et ben, dans l'apnée, déjà, le principe même de l'apnée, c'est déjà d'économiser l'énergie pour aller le plus loin possible ou de durer le plus longtemps possible. Donc, on est vraiment dans l'efficience, c'est de fournir le minimum d'efforts pour avoir, on va dire, le maximum de productivité. Et en fait, ça, dans la vie, ce parallèle-là, on peut le faire à tous les niveaux. C'est de ne pas courir 10 lièvres à la fois, c'est pas s'épuiser mentalement et nerveusement pour avoir peu de choses. C'est d'être dans la capacité d'adaptation, dans la capacité de résilience, de s'adapter à son environnement et de rebondir très rapidement. Et je pense que l'apnée est vraiment en lien avec ça. L'apnée nous apprend à l'écoute de notre corps, à être dans notre ressenti, d'être capable de percevoir notre corps dans l'économie, dans ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça nous oblige à être encore plus dans la concentration et dans le ressenti, dans le monde des perceptions. Et on va en revenir après, je pense qu'on va rebondir dessus, mais l'eau, pour moi, est l'élément vecteur de tout ça, puisque ben, c'est un maître pour moi. L'eau est un élément tellement adaptatif, il est tellement justement lié à la vie, puisque c'est la vie créée par l'eau, qu'en fait, je pense que c'est vraiment une référence pour nous, apnéistes, qui devons être au plus proche de l'eau pour pouvoir justement avoir toutes ces qualités-là, être dans l'économie et aller plus profond, découvrir le sous-marin.
Et le deuxième mot que tu utilises, c'est physique. Quel lien tu fais, du coup, quelles conditions physiques il faut avoir pour pratiquer de
Et
l'apnée?
ben, le physique, comme tout, il y a le mental et le physique. Le physique est complètement complémentaire et complètement imbriqué, évidemment. Donc, il faut être à la fois fort, économique, dans l'énergie que l'on transmet. Il faut avoir un cœur, il faut avoir un système vasculaire développé au niveau des poumons, au niveau du cerveau, de l'oxygénation, avoir une meilleure oxygénation du corps de manière globale, avoir un bien-être physique, personnel, environnemental qui est important, même aussi dans l'alimentation pour pouvoir être bien dans ce que l'on fait. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc, je travaille autant la musculation que je peux faire du cardio, que je peux faire de la natation, de la technique et l'apnée. Donc c'est extrêmement complet.
Et tu parles ensuite de technique. On en parlait juste avant de démarrer l'enregistrement ensemble. Je pense que, voilà, en ayant fait un stage d'apnée, je me suis rendu compte à quel point la technique était en effet importante. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, la technique pour moi, c'est quelque chose qui est forcément important, mais c'est quelque chose que l'on amène quand on a besoin à un moment donné de franchir des nouvelles étapes. Je dirais qu'il faut pas manger trop de technique au début, au contraire, il faut plutôt essayer de percevoir et ressentir l'environnement. La technique, elle vient progressivement en fait, on l'acquiert progressivement. C'est comme je dis des fois, bah, on revient encore sur le phénomène des études. Quand on a trop d'informations tout de suite, on se noie dans l'information, on crée des croyances. On peut créer des croyances limitantes ou des peurs qui sont en lien à la technique, mais parce qu'on n'a pas encore expérimenté, mais on a plein d'informations. Je pense que ça devrait être un peu l'inverse et commencer déjà à expérimenter les choses et progressivement d'incorporer la technique et l'information au fur et à mesure de la formation. Je pense que j'en ai eu après les années de pratique.
Peut-être que l'apnée peut paraître plus technique et plus complexe que la plongée bouteille, par exemple. On parle beaucoup de plongée bouteille dans le podcast La tête en mer. Et là, c'est
Ben,
vrai
ça dépend
que...
pourquoi.
Ouais.
Ça dépend pourquoi. Parce que la plongée peut être technique, mais on est plus sur de la technique matérielle liée à l'environnement. Nous, on est plutôt sur vraiment technique introspective, physique, liée à l'environnement. Donc, il y a forcément du physique aussi dans la plongée bouteille, mais je dirais que l'aspect physique en apnée est très, très subtil, puisque ça va aller dans les profondeurs du corps humain. Et ça va être très intéressant là-dessus. Ouais.
Je pense que voilà, même si ça peut paraître en tout cas technique, comme tu le soulignes, c'est quelque chose qu'il faut peut-être aller chercher un petit peu plus tard, pour avoir du coup découvert l'apnée il y a un peu moins d'un mois.
Alors, il en faut tout le temps de la technique, mais je dirais il faut pas l'avaler tout de suite dès
C'est
le
ça.
départ.
Voilà, on n'a pas besoin d'être voilà sur les mains pour faire en tout cas faire un stage
Non, on
d'apnée.
a
Je crois
surtout besoin de moniteurs et d'instructeurs. Ça, par contre, c'est
que... Ouais.
indispensable. C'est une, comme je prends souvent l'exemple de l'escalade. L'apnée est un sport à enseignement. On peut pas l'improviser de son côté. On peut pas. C'est pas comme de prendre un paddle, une rame, et puis on va faire du paddle sur la mer. Ça fonctionne pas. En apnée, il y a beaucoup, en effet, de connaissances quand même minimales en termes de sécurité et d'organisation pour pouvoir la pratiquer sereinement. Et ça, c'est indispensable. Donc, ça demande des moniteurs, des instructeurs. C'est pour ça que j'invite vraiment ceux qui veulent découvrir l'apnée à se rapprocher des centres et des structures. Ouais, c'est très, très important.
Et tu parles du coup du côté environnemental. Quelle association toi tu fais entre l'apnée et l'environnement?
Bah, tout simplement qu'on est dans un milieu naturel, qu'on a conscience de ce qui se passe, puisqu'on le voit, c'est visible aussi. C'est notre environnement, c'est notre terrain de jeu, donc il faut être capable de le protéger, du moins de partager les connaissances que l'on a pour pouvoir le protéger ou sensibiliser les personnes qui, eux, n'y sont pas forcément, qui ont un impact sur la mer, mais qui ne se rendent pas forcément compte.
Et le dernier mot auquel tu fais allusion, c'est le mot spirituel. Ça m'interpelle, je t'avoue. Qu'est-ce que tu as en tête en disant ça?
Ben, en fait, ça nous pousse à nous connaître beaucoup plus en profondeur, au-delà du physique, au-delà du mental, à comprendre la conscience des choses. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à me concentrer, à essayer de comprendre, à essayer de ressentir mon corps. Donc, j'avais besoin de répondre à plein de questions existentielles et l'apnée indirectement m'a amené à poser ces questions-là. Par la pratique tout simplement de la méditation, le fait de travailler sa concentration et sa pleine conscience. Le fait de travailler la concentration et la pleine conscience m'a permis de me recentrer dans l'instant présent, d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur de moi, d'être moins dans mes pensées tout simplement. Parce qu'en fait, on a cinq sens. On a des yeux, on a un nez, on a une bouche, on a des oreilles, on a des mains. Et on les utilise malheureusement pas assez pour s'orienter, pour être capable de percevoir ce qui se passe. On utilise beaucoup notre mental et nos pensées. Et ça nous coupe en fait de notre réalité, puisqu'une pensée nous projette dans le futur, tandis que bah, les cinq sens, eux, nous projettent dans le présent. Et à partir du moment où on est sur ces cinq sens, bah, on évolue plus vite et mieux, parce qu'on est plus capable de ressentir ce que l'on a besoin, on est plus capable de s'écouter sur ses intuitions, on est plus capable d'écouter les autres et de comprendre ce qu'ils ont à nous apprendre. Toutes ces choses font que, pour moi, c'est l'apnée est extrêmement importante parce que elle nous pousse dans un niveau d'introspection dans notre corps et dans notre physique qui est très 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 profond, et la méditation est prédominante. Donc ça m'a posé plein de questions là-dessus. J'ai aussi fait des formations un petit peu pour me cultiver en parallèle de toutes ces choses et faire des parallèles avec avec notre environnement, notre univers, l'eau aussi. Comme je dis, l'eau est un élément vecteur, c'est un maître, et le fait de s'inspirer de cet élément fait que on arrive beaucoup mieux justement à se relâcher, à se connaître.
C'est marrant que tu parles de ça, parce que tu vois, j'ai essayé d'intégrer la méditation dans ma vie et c'est très difficile pour moi. Et je me suis posé la question de savoir si justement l'apnée serait pas la forme de méditation qui moi me conviendrait. J'adore être dans l'eau et du coup en ayant fait ce stage de découverte, j'ai compris, j'ai connu du coup des sensations que tu décris un petit peu là. Et je me suis dit ouais, voilà, peut-être que l'apnée est quelque chose qui va pouvoir m'aider dans ma vie quotidienne, pas seulement pour voilà ce sport et pour la pratique, mais aussi pour d'autres situations. Est-ce que toi, tu dirais que l'apnée t'a changé, t'a même peut-être aidé dans des moments de ta vie qui ont pu être difficiles?
Ah complètement. Je vais rebondir rapidement sur ce que tu as dit sur la méditation. Là, pareil, la méditation, on l'a dissociée, on a mis un mot sur ça, la méditation. Ouais. Donc en fait, on l'a identifié comme quelque chose, comme un exercice. Mais en fait, c'est pas ça. La pleine conscience, la méditation, elle est partout, elle est en tout temps, elle est maintenant. Donc, à partir du moment où je suis concentré dans l'instant présent, je développe cet état de méditation. Cet état de concentratif, après la méditation, il y en a plein. La méditation, il y en a des passives, il y en a qui vont partir sur la visualisation. Moi, je parle de pleine conscience. Et quand je parle de pleine conscience, en fait, ça peut être fait à n'importe quel moment en prenant sa douche, en marchant dans la forêt, juste de ressentir les pas sur le sol. Donc, si on commence avec une hyperactivité mentale, si on commence par la méditation pure, c'est violent, quoi. C'est vachement dur. C'est comme si, je sais pas moi, je faisais débuter les échecs avec un grand maître d'échecs, et puis la personne, elle se prend des claques sur claques, quoi. elle va pas voir les progrès tout de suite. Que si on s'attache à des choses simples de la vie de tous les jours, on fait déjà de la méditation. La musique est une forme de méditation, la peinture est une forme de méditation, l'art est une forme de méditation, le sport est une forme de méditation. Si on, par exemple, on travaille de la technique de nage en apnée, ouais, là, moi, j'ai l'impression de vraiment progresser en termes de méditation et de concentration, parce que je dois vraiment ressentir mes mouvements de mains pour avoir les bons appuis. Ne serait-ce que de travailler là-dessus pendant 3 heures, on est tellement concentré pendant 3 heures là-dessus qu'on va développer une concentration. Et ça apporte énormément. Alors, je rebondis sur la deuxième chose que tu disais.
Est-ce que ça t'aide? Oui.
Rappelle-moi ta dernière question, c'était quoi?
C'était savoir si du coup l'apnée t'avait aidé dans la vie quotidienne sur des moments peut-être difficiles de ta vie.
Directement, je sais pas. Indirectement, oui, c'est évident. Parce que l'apnée m'a pris à lâcher prise, quelles que soient les situations qu'on peut vivre. Quand on est à 100 mètres sous l'eau ou même 30 mètres sous l'eau, on peut pas respirer à ce moment-là. Il y a quand même la remontée. Donc, ça nous oblige forcément à être beaucoup plus conscients de ce qui se passe. Parce que, pas que notre vie est en jeu, mais c'est quand on a quand même le besoin vital de respirer. Et donc, à ce moment-là, forcément, ça nous oblige à être beaucoup plus conscients de ce qui se passe dans notre corps et à être dans l'économie et dans les perceptions. Donc, dans la vie de tous les jours, ça nous apprend forcément à lâcher prise sur beaucoup de choses. Et je peux vous dire que j'en ai besoin. Enfin, je peux te dire que j'en ai besoin parce que je viens de très, très loin là-dessus.
Ouais, c'est... je pense que j'en ai besoin aussi. C'était voilà, l'exercice... que j'ai découvert en faisant de l'apnée en mer de devoir lâcher prise quoi, et j'ai trouvé en tout cas l'exercice plus facile tu vois étant sous l'eau, parce que j'ai l'impression que c'est mon élément, en tout cas un élément qui me permet de faire ça plus facilement. Comme quand je te disais voilà, faire de la méditation sur mon canapé, pour moi c'est catastrophique, c'est hyper compliqué quoi, alors que là sous l'eau
il y a des exercices qui sont très simples, par contre tu peux le simplifier. Le fait de juste fermer les yeux, de se focaliser juste sur les sons, tu isoles les choses sur un point précis et tu essayes de maintenir ta concentration sur ces choses-là. Dès que les pensées arrivent, tu fais OK, tu les acceptes, et puis tu ramènes vers le son. Et une fois que tu as fait le son, bah, tu fais ça avec le ressenti dans tes mains ou le ressenti de ta position. Après, tu peux le faire en isolant la vue. Et tu fixes un point au loin et tu maintiens ta concentration sur un point au loin ou sur ce qui se passe devant toi. Et tu attends que les pensées, elles arrivent. Voilà. T'es comme si tu attendais que ton esprit parte juste pour l'observer. Comme si tu étais observateur de tes pensées. Et ça, c'est un jeu. Et si tu joues avec ça, c'est génial parce que tu peux jouer ça en te promenant, tu peux jouer avec ça à n'importe quel moment de la journée, en fait. Et quand ça devient un jeu, bah, tu progresses très, très vite. Beaucoup plus vite que si tu le voyais comme un exercice qu'il fallait faire à telle heure, à tel moment de la journée.
La
Même
contrainte.
si c'est bien d'avoir une routine. Si tu arrives à l'intégrer, c'est bien. Mais en tout cas, à partir du moment où tu la pratiques à n'importe quel moment, tu progresses très vite.
Tu parlais des ressentis et c'était pour moi intéressant de constater quand je suis remontée de ces apnées sur câble, je crois que j'avais jamais autant ressenti l'eau sur mon corps.
Ah
Alors les premiers mètres où tu vas remonter, bon là tu tiens un peu sur le câble, tu dis oulala, je vais vite remonter quand même parce que comme tu dis, c'est un besoin vital de respirer. Et quand tu es en bas sous l'eau, tu dis alors quand même que j'assure ma remontée. Et puis plus tu vois la surface se rapprocher, plus tu dis mais en fait c'est ok, ça va le faire. Enfin, je vais y arriver. Et là, ouais, je sais pas, j'ai ressenti ça et je sentais l'eau sur mon corps et c'était magique. Tu parlais bah, justement de profondeur que je n'ai pas du tout atteint de mon côté. 100 mètres, je crois que ton record c'est 110 mètres, si je dis pas de bêtises.
100, ouais, 111 mètres en compétition,
Ouais.
113 mètres à l'entraînement, ouais.
Ok, ça paraît des profondeurs absolument folles. Avant qu'on parle spécifiquement de ça, de ces records, pourquoi tu as décidé de te lancer en compète? Est-ce que pourquoi t'as pas voulu garder l'apnée comme un sport peut-être loisir et te dire voilà, je deviens instructeur. Pourquoi t'as cherché ce côté performance et compétition?
Ben, en fait, j'étais attiré par l'aspect compétition, même je savais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, je me posais pas toutes ces questions-là. Je me disais que c'était cool, ça permet de partager la passion et puis de pouvoir progresser. Et même si ça me faisait un peu peur, je me suis dit, ben, je vais essayer. Ça a été un vrai carnage d'ailleurs. La première compétition, j'ai eu deux cartons rouges, un carton blanc. Donc j'ai invalidé deux performances la première compète, par le stress, juste le stress. Et donc du coup, il a fallu apprendre tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être un outil difficile à apprivoiser, mais qu'au final, ça allait être un moteur parce que la compétition nous pousse encore plus à gérer nos émotions et à lâcher prise. Mais moi, mon objectif finalement, au fil des années, c'était d'arriver, quelle que soit la compétition, d'arriver à gérer mes émotions et de partir comme à l'entraînement ou de partir comme en y plongeant plaisir le jour J. Donc c'est un défi un peu sadique de participer à une compétition en se détachant de la compétition, d'être capable de se détacher de l'environnement compétitif, mais en y étant. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait participer forcément à des rencontres fantastiques, à rencontrer d'autres apnéistes, à partager la passion. Et pour moi, la compétition, pour ça, c'est fantastique. Il n'y a pas de se tirer la bourre, je vais lui niquer la gueule. On en est loin quand même de ça. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans ce sport. C'est que, en plus, après 10 ans de compétition, je me suis aperçu que plus tu te détachais de ça, et plus tu faisais des performances, en fait, et tu te plaçais dans la compétition. Au final, c'est ce détachement-là. J'ai fait un post récemment sur LinkedIn là-dessus où j'avais fait beaucoup de syncopes et de pertes de conscience. Et parce que justement, mon ego était un peu fort par rapport à la compétition, même si, du coup, j'essayais de valider ce que je faisais à l'entraînement en compétition, ou de me rapprocher de mes maximales en compétition. Et à force de faire ça, ben, j'ai pris aussi beaucoup de risques. Et donc, je me suis mis en plus en perte de confiance en moi, parce que quand on vit des syncopes ou des pertes de confiance en compète, forcément, on régresse quelque part sur le plan mental et sur le plan perso, puisqu'il faut regagner la confiance aussi avec soi, avec son environnement. Et donc, du coup, ça m'a plus freiné qu'autre chose. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en 10 ans. Et aussi, le résultat compétitif, c'est souvent le cas, parce que quand on voit les annonces à la base des championnats du monde, on peut être dans les 10, et puis des fois on se retrouve au pied du podium, voire même sur le podium, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent, parce qu'il y a le stress, parce que, et au final, Je trouve que c'est ça qui est fort dans l'apnée. C'est plus tu es droit dans tes bottes par rapport à tes capacités, du moment et que tu prends en compte l'environnement, bah plus tu vas loin, quoi. Et ça, c'est génial.
Je voulais justement rebondir sur ce poste que tu as fait, parce que voilà, je trouvais le message intéressant de dire, en fait, on a peut avoir l'impression que l'apnée, c'est tout le temps repousser ses limites, repousser ses limites. Et en fait, dans ce poste, tu viens un peu décrier ça en disant, non, en fait, tu vas là où tu maîtrises. Et j'ai l'impression que dans l'apnée, c'est quand même encore plus important que dans n'importe quel autre sport, parce que tu as quand même une notion de risque vitale qui est quand même là, hein, faut pas le nier. Et du coup, j'ai l'impression, voilà, l'aspect maîtrise, aller là où on sait faire. Je crois que sur une compétition, vous allez jamais à des profondeurs que vous n'avez pas atteintes avant en entraînement. C'est bien ça?
Alors, ça dépend le contexte, parce qu'il peut y avoir des athlètes qui auront répété 100 fois la profondeur de, je sais pas moi, de 110 mètres, et qui le font avec une telle facilité que le jour de la compétition, ils peuvent rajouter 3 mètres et il leur arrivera rien, parce que justement, ils ont canalisé de la confiance pour pouvoir être prêt le jour-là. Après, chacun a sa propre stratégie. Après, cette confiance-là, elle est importante à acquérir parce que c'est la confiance qui va te permettre de te relâcher dans l'eau et de pouvoir progresser et d'avoir une marge, donc en fait, de sécurité, enfin d'avoir une marge de sécurité. Parce qu'en fait, oui, on repousse la performance, mais on la repousse avec une marge, en fait. Donc la limite, on va dire qu'elle est là. Nous, on en est là. Et ben, le fait de travailler, de s'entraîner et de s'entraîner, en fait, on déplace cette masse. Ce qui est des, voilà, après on peut jouer dans cette zone, mais si on est là on commence à prendre des risques parce qu'au final la limite elle est là et nous on joue dans un mouchoir de poche en fait. Et je pense que c'est là où la confiance elle peut être en danger. La confiance elle se joue je pense ici quoi. Et c'est ça qui est très intéressant en fait. On repousse cette marge
Au fur et
au
à
loin.
mesure, ouais.
Et je pense que ça, c'est inspirant. Il y a certains athlètes qui l'ont bien, bien compris, qui l'ont bien mis en place et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, au contraire, je vois aussi beaucoup d'athlètes qui poussaient les limites systématiquement et la perf maximale systématiquement et je les vois plus régresser que progresser.
Ok, intéressant. Et tu as rapidement évoqué le fait tout à l'heure que tu avais pu faire des conférences en entreprise. Est-ce que tu fais un parallèle du coup avec voilà, cette attitude en compétition dans une vie par exemple professionnelle? Est-ce qu'il y a des managers qui sont réceptifs à tout ça?
Ah bah complètement, parce que eux l'ont aussi expérimenté et vécu. On peut parler du burn-out. Clairement, là, on est typiquement dedans. En fait, c'est de pousser la performance à son paroxysme, voire à l'échec successif. On donne des échéances, on donne des chiffres qui sont inatteignables. Ça c'est une maladie managériale qui est terrible, je trouve, dans le milieu professionnel, dans notre monde actuel. On met des trucs qui sont inatteignables en se disant, bah, on n'a qu'à viser les étoiles, au moins on atterrira sur la Lune. C'est d'une connerie sans nom, parce qu'au final, on perd plus en confiance que en capacité de progresser. La progression, elle se fait par la confiance, à mon sens. Et à partir du moment où on donne des objectifs qui sont atteignables, mais qui sont, voilà, qui va nous sortir de notre zone de confort, mais qui sont atteignables, ça va nous permettre de progresser. Mais je dis pas qu'il faut être tout le temps dans sa zone de confort, bien au contraire, il faut en sortir. Mais on a une marge quand même, on a une marge d'évolution là-dedans. Et le problème, c'est que nous, on veut que la personne, elle soit 10% ou 20% de ses capacités au-dessus de ses capacités, ce qui marche pas.
C'est pas
Donc quand on
durable.
fait des
Ça
échecs
marche
successifs,
peut-être,
on
mais...
pousse à la pression, on génère du stress. Le stress génère des maladies et puis et bah, après, il peut y avoir des maladies graves derrière qui peuvent se déclencher. Des burn-out, et puis on voit que tout le monde est crevé et qu'ils n'en peuvent plus, et puis qu'il y a des dépressions. Et après, c'est crescendo. Donc, je pense que notre société, elle est malade. Et le fait peut-être de revoir cette approche peut aider déjà certaines personnes dans le milieu professionnel ou même à se développer eux-mêmes en tant qu'indépendants. Si ça leur convient pas, l'environnement dans lequel ils sont, il faut leur donner les clés pour qu'eux-mêmes créent leur environnement.
C'est marrant parce que la semaine où j'ai repris le boulot après avoir fait ce stage d'apnée, j'avais l'impression d'avoir plus confiance en moi. Et de me dire, mais en fait, tu vois, je viens de faire un truc de fou. Enfin, franchement, j'ai été sous l'eau, je ne pouvais plus respirer. Waouh, c'était dingue. Donc, je suis capable de faire des trucs comme ça. Et bah, professionnellement capable, je suis capable de faire peut-être même plus que ce que je pensais, quoi. Et bon, ça
Ouais,
n'a pas
genre tu...
forcément duré longtemps, mais, mais j'ai, voilà, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, ok, c'est intéressant.
Mais non, mais c'est clairement, t'as identifié ce qu'on ressent quand on fait quelque chose comme ça en parallèle de son activité. Et là, tu vois, je prends un autre exemple. J'étais en musculation, j'avais un défi là. Enfin, j'avais progressé dans plein d'exercices de musculation pour travailler ma force. Cette année, j'ai axé sur janvier, février, enfin, de décembre à février et mars, j'ai poussé vraiment la force pour gagner des nouvelles capacités. Et donc, j'ai réussi, j'ai progressé au-delà de mes espérances, voire même à atteindre en développé couché 95 kilos. Tu vois, ça paraît con, pourtant développé couché, c'est pas l'exercice ultime en apnée, on s'en fout presque. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, 95 kilos, je suis qu'à 5 kilos, quoi. Donc, je me suis challengé. Je me suis dit, bon, allez, tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner, et tu passes les 100, comme ça, c'est fait, quoi. Et je me suis dit, ouais, je passe pas à la suite sans avoir fait ces 100. C'est tout con. Là, l'autre jour, j'ai fait mes 100, j'étais trop fier. Mais en fait, ça apporte du bien-être, ça apporte du bonheur, parce qu'on s'est dit, cool, ça y est, le challenge, je l'ai fait, et c'est un
Suis
moteur
capable.
aussi pour la suite. C'est-à-dire que si moi, ma seule motivation, c'était la performance en apnée, je pense que je me ferais chier. Et c'est important d'avoir d'autres challenges parallèles qui nous permettent de prendre confiance en nous. Il n'y a pas que dans notre sport ou dans notre activité professionnelle. En tout cas, il faut jouer ailleurs. Ouais.
Je trouve que c'est ça qui est incroyable avec l'apnée, tu vois, sur des sessions d'apnée, le mot, la phrase du moins, j'en suis capable, est ressorti plein de fois. Et ça, c'est vraiment dingue, quoi. Tu te dis, c'est vraiment le sport qui te fait découvrir des choses en toi, et tu te dis, waouh, ok, je suis capable de faire ça. Alors que tu crois pas du tout, quoi. Et du coup, quels sont tes objectifs pour la suite? Donc, t'as ces records mondiaux à 113 et 111, tu me disais. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu veux continuer à performer ces records-là? Est-ce que je sais que tu fais aussi pas mal de formations et de stages? Est-ce que c'est un aspect qui te, de ton métier, voilà, qui t'intéresse et vers lequel tu aimerais te diriger?
Alors, je t'avoue qu'au niveau enseignement, j'ai enseigné pendant plus de 10 ans. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai donné, 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 énormément donné. Et maintenant, j'adore m'occuper de moi. Donc, je me consacre vraiment à ma performance, à mes plongées. Je m'éclate dans ce que je fais. J'adore mon entraînement. Je me vois progresser encore. Et je sais que je vais pouvoir progresser dans les années. D'ailleurs, plein d'athlètes l'ont prouvé, parce qu'à 45 ans, il y en a très fort qui performe au meilleur niveau mondial. Donc ça me motive encore plus à poursuivre ma carrière sportive. Et je suis content parce que j'ai plein d'outils parallèles qui me permettent d'assurer ma carrière. Parce que ma carrière, mon après-carrière, en fait, c'est la même chose. Parce que je fais tout ce que je pourrais faire dans mon après-carrière, je le fais actuellement. C'est-à-dire que j'interviens en entreprise sur la gestion émotionnelle, sur les conférences. Ça m'arrive de faire des stages d'apnée, mais un peu moins là, parce qu'il faut que je canalise mon énergie pour mes plongées. J'ai plein de projets aussi, peut-être un livre. Je suis en train de commencer à me taper des trucs, à écrire des choses. Il y a plein, 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 plein de choses que j'ai envie de développer, et c'est cool. Je m'éclate. Je m'éclate en tant qu'athlète, et je m'éclate aussi en tant qu'entrepreneur, quelque part.
Génial,
Donc
ouais.
c'est cool.
Tu ne devrais pas t'ennuyer. Et je crois qu'il y a un autre, peut-être un autre, enfin plusieurs autres projets que tu as aussi en cours et dont on n'a pas encore parlé. Tu sembles très touché par le combat écologique auquel on fait face actuellement. Pour remettre les choses dans leur contexte, on est le dimanche 24 avril, donc ce soir on aura les résultats des élections présidentielles. Je te rassure, on n'est pas là pour faire de la politique.
Non, j'en ferai pas, c'est sûr.
Mais je crois qu'on a quand même tous été assez choqués par le manque de débats, d'initiatives sur l'écologie des candidats à ces élections. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic de ton engagement envers l'écologie? Et si tu veux un peu développer aussi ces engagements que tu
Bon,
as?
le déclic, il a été simple, hein. Moi, j'ai découvert l'apnée en Corse. J'ai vu tout le poisson qu'il y avait. Et puis, 10 ans après, j'ai remis la tête au même endroit, et il y avait pratiquement plus rien, ou très peu. J'étais au Honduras après un championnat du monde. On a fait une explo pour aller voir les requins. Puis au final, on s'est retrouvé avec nez à nez avec un groupe de plongeurs qui était comme au théâtre, alignés, en train de donner à manger aux requins et de voir le spectacle. Et au même moment, à la surface, il y avait une énorme vague de plastique de plusieurs kilomètres de large. qui est arrivée et je me suis dit, mais c'est quoi ce monde de teubé? Mais vraiment, vraiment, c'était ça ma pensée. C'était vraiment, c'est quoi ce monde d'abruti fini? On est en train d'observer un truc comme si on était au cirque, mais en fait, ils s'aperçoivent même pas que eux-mêmes, c'est eux qui vont être les deux pieds dans la merde. Je parle trash et je parle dur comme ça, mais là-dessus, je pèse mes mots. Pour moi, c'est une absurdité sans nom. Et on est rentré dans ce système-là et on y participe tous. Même moi, on prend l'avion, on consomme des ordinateurs, des téléphones. Donc, on essaye de faire la part des choses, de minimiser l'impact. En ayant conscience de certaines choses, par la connaissance, on arrive à diminuer notre impact environnemental. Mais en tout cas, à un moment donné, je me suis demandé si on n'était pas, si c'était pas nous, individus, chacun qui auront ce truc-là, qui généreront cette chose-là. Mais en fait, c'est une machine. C'est qu'on a lancé une machine qui est inarrêtable, qui est lancée. Et en fait, le seul moyen de l'arrêter, c'est de mettre un énorme barreau dans l'engrenage. Donc, il faut arriver à péter la machine, en fait. On peut plus l'arrêter. Donc, il faut arriver à l'arrêter. Donc, ça se fera de manière violente, soit à nos dépens. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui va nous faire les cataclysmes qui vont nous éclater en tant qu'humains. Ou alors, c'est à nous d'essayer de mettre un énorme barreau dans l'engrenage. Donc, la question, c'est comment ça va se passer demain. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le système que l'on a actuellement, je pense qu'il n'y a pas un gros retournement, ça va être assez sportif. Mais en tout cas, ouais, ça c'est. Alors je sais pas comment, quelles sont tes questions par rapport à ça, mais en tout cas.
Bah, quel était le déclic? Je pense qu'on l'a bien compris. C'est quand même intéressant. Enfin, tu vois, pour moi aussi, ça a été le déclic de mettre la tête sous l'eau et de voir ce que j'ai vu. Donc les coraux blancs et donc morts en Thaïlande, les tortues entourées de plastique au Sri Lanka, moins de poissons en effet en Corse d'année en année. Donc voilà, je pense que nous plongeurs, il y avait au salon de la plongée une super conférence de François Sarano et que j'ai découvert sur ce salon-là du coup, et il était sur scène et il nous regardait droit dans les yeux et disait mais nous plongeurs, c'est à nous en fait aussi d'exprimer tout ça parce qu'on a on est la tête sous l'eau, on a les yeux pour voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est un exemple de plus de personne qui a eu ce déclic en mettant la tête sous l'eau. Les questions que je voulais te poser, c'était, j'ai lu que ton frère était plongeur hydrobiologiste, que tu travaillais pas mal avec lui justement sur des sujets de protection des océans. Je connaissais pas ce métier, je t'avoue, si tu
plutôt peux lacustre, expliquer. Parce qu'il est spécialisé lacustre, mais oui, okay. On a fait une série et une série documentaire sur la sensibilisation des lacs de montagne, parce que c'est un peu sa spécialité. On est en plus issu de la Haute-Savoie, donc il y avait de quoi faire. Et ouais, l'histoire, c'était de pouvoir, en tant qu'apnéiste, de pouvoir partager justement cette prise de conscience-là. Et le fait d'avoir un plongeur hydrobiologiste, en plus, qui est engagé dans l'environnement depuis toujours, c'est sûr que ça aide à faire quelque chose. On s'est dit qu'il fallait qu'on lance ces vidéos-là. Donc, du coup, elles sont accessibles sur YouTube. Et donc, il y a plusieurs projets, en tout cas, qui ont été menés pour sensibiliser justement de ce côté. En tout cas, je me suis engagé auprès de certaines associations.
Est-ce que tu peux préciser, du coup, plongeur hydrobiologiste? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est un plongeur qui fait des prélèvements, qui va étudier le milieu aquatique, qui va étudier les espèces de poissons et les espèces de bestioles, tout simplement, qu'on peut retrouver dans les lacs, dans les milieux aquatiques, pour en définir la qualité d'eau et savoir s'il y a une problématique de pollution ou autre. Donc, en fait, il a une, à la fois sur l'aspect géologique, à la fois sur l'aspect sédimentaire, à la fois sur l'aspect atmosphérique aussi, puisqu'on peut retrouver des particules de pollution au niveau atmosphérique dans l'eau. Et en fait, par déduction de tout ça, on arrive à déterminer si un lac est pollué, par quoi, comment et par quelles raisons, et comment la pollution, elle descend des montagnes vers la mer. Parce que c'est ça aussi, c'est la dégradation humaine qu'il y a entre la très très haute montagne et la mer où les humains vivent. Quelle est l'incidence qu'il va y avoir après sur les milieux qui sont un peu plus bas, quoi.
Ok, c'est plus clair. Et tu parlais d'assaut pour terminer, tu parlais d'associations auprès desquelles tu es engagé. Je voyais Longitude 180, mais justement l'association de François Sarano, Water Family. Pourquoi pour toi c'est important d'agir auprès de ces assauts-là?
Bah, tout simplement parce qu'ils mettent des actions en place qui sont vraiment concrètes, directes. Moi, j'aime bien la Water Family aussi parce que ben ils touchent les enfants, sensibiliser les écoles, dans les écoles pour arriver à dire bah voilà ce que un ordinateur c'est plus de 15 000 litres d'eau, une viande c'est une viande industrielle c'est 30 000 litres d'eau au kilo. D'avoir une connaissance, une vision de, la, de ce que crée la pollution que va générer en fait les choses de la vie de tous les jours. Pour avoir conscience de notre environnement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir l'améliorer. Donc ça c'est génial parce que les enfants retiennent beaucoup plus que les adultes en termes de chiffres. Ils ont cette capacité quand même à dans quelques années à voir prendre le relais, à inventer des nouvelles technologies ou des choses qui vont nous permettre justement de minimiser l'impact ou d'essayer de sauver la planète. Donc
La
c'est quand même pas
machine.
rien. Et je pense que c'est là peut-être la meilleure génération, puisqu'on le voit actuellement dans la politique, la génération qui est en place, je sais pas vraiment si on peut compter sur elle. Donc il va falloir compter sur la nouvelle génération, clairement. Ouais.
Ben écoute, je te remercie Stéphane. Je te laisse aller profiter de Tenerife et continuer du coup les entraînements. Je te souhaite bonne. C'est quoi la prochaine étape, prochaine grosse compétition qui t'attend?
Bah là, ce sera les championnats de France, donc plutôt local,
D'accord.
sur Nice, à Villefranche, à Villefranche-sur-Mer, fin juin. Après, j'ai le Vertical Blue, qui est la grosse compétition des apnéistes, aux Bahamas. Et après, ce sera en Turquie, championnat du monde, si les sélections sont bien passées. Et puis après, on verra. Mais en tout cas, ça fait déjà trois échéances.
C'est pas mal.
Peut-être une en novembre, mais ça, on verra.
Ça marche, génial. Bah, je te souhaite bonne chance pour tout ça et bonne continuation. Merci beaucoup pour
Ouais.
le temps que tu m'as accordé.
Ben, merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La tête en mer. À bientôt!